Interview.
1 du jour.
Et merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi dans le studio, Alain Curté. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Non, Baptiste.
Bonjour Baptiste.
Mais merci.
C'est ton papa et
c'est
on
ça.
Vient de me rappeler que ton papa s'appelait, ou plutôt que c'était ton papa, je ne le savais pas. Et donc je suis très content et c'est pour ça que j'ai fait exprès de faire ce truc pour pouvoir commencer à parler et à m'écouter parler.
C'est fameux, et puis ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé Vincent, parce qu'il y a une période où on se ressemblait vraiment beaucoup, puis maintenant les âges faisant, on s'écarte un peu. Alain Curté, on s'est vu il y a pas très longtemps dans le cadre de la présentation de tes ateliers d'impro.
Oui.
Vous proposiez un spectacle au Pestel. Allez, on commence par ça, comment ça s'est-il bien passé?
Ben effectivement, ça s'est bien passé, 160 personnes, Jean-Pierre Surl était heureux, moi aussi, on s'est avoué que ça faisait 35 ans qu'on n'avait pas fait quelque chose ensemble dans ce Pestel. Lui, il était venu me voir la chiffonie jouer, oui, une bonne trentaine d'années, 35 ans plus tôt, et il rêvait effectivement de faire quelque chose un jour au Pestel qui ressemble à ce premier spectacle qui avait eu lieu à l'époque des anciens gérants au Pestel. Donc beaucoup de monde et puis une soirée très, très sympa, très ouverte avec un petit concert de piano à l'entracte par une spectatrice et avec une bonne prestation des ateliers d'impro de l'espace social.
Ouais, vous avez eu des bons mots et des bonnes inspirations.
Ouais, on a eu des bons mots et des bonnes inspirations.
Et enfin, alors,
ils ont eu, puisque moi je ne suis que le coach dans cette affaire et je serais incapable de faire le 18e de ce qu'ils font.
Et le coach était content quand même, c'est
le
ça.
Coach était content, il était un peu tendu, il a surtout vu ce qui se passe toujours, c'est que certains arrivent à se dépasser, ça se passe plus en impro qu'en théâtre en général, mais en spectacle de théâtre plus traditionnel. Mais certains ont pu se dépasser et d'autres étaient très en dessous et ces autres-là... font des choses exceptionnelles qui sont pour moi des moments de grâce dans mes ateliers et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas des spectateurs ou un filmage à ce moment-là parce qu'il y a vraiment des moments de petits génies, de morceaux d'impro, voilà.
Bah, c'est un appel, hein. N'hésitez pas à filmer les sorties du théâtre d'impro. Alain Curté aussi, l'occasion nous est donnée maintenant de s'intéresser un peu plus particulièrement à ton travail, à ta personne propre. La chiffonie évidemment était citée, mais c'est aussi tout un travail de comédien que tu fais au quotidien, plus, si je comprends bien, une galerie à Luc Andiwa. Alors par quoi on commence?
On va commencer par la galerie à Luc Andiwa, tiens.
Allez.
Elle s'appelle Galerie Coup de cœur, elle a 29 ans, merci de m'en donner l'occasion d'en parler. C'est une galerie qui décline depuis 29 ans des expos qui ne se ressemblent pas, où on a pour tradition d'inviter deux années d'affilée ce qu'on appelle plus les artisans, c'est-à-dire les céramistes, bijoutiers éventuellement. Et à l'étage, par contre, on a une partie plus pièce unique avec photos, sculptures, peintures, etc. Et donc cette année... on a le thème qui a été trouvé par Rose Lune, qui est mon épouse et qui est la grande directrice artistique de la galerie et qui, au-delà de ça, elle-même crée. Elle a créé beaucoup de choses dans le passé, des mobiles, des personnages, des fusings, des bijoux, etc. Et cette année, bijoux et photos sous le thème « Jeux d'ombre et de lumière ». C'est ce qui nous a fait redécouvrir... d'Élise Caoutchouc, qui est une jeune personne de la région de Lyon, qui fait des bijoux, des tentures et surtout des tableaux lumineux. Et c'est ça qui nous a plu et qu'on a eu envie de réexposer cette année. On avait exposé déjà ses bijoux, déjà ses tentures. Et là, c'est ces tableaux lumineux qui sont des tableau avec des petites scènes, un jardinier dans un hamac avec un petit arrosoir ou un petit verre avec une petite paille à côté. Et tout ça, c'est découpé dans du caoutchouc avec des LED sur les côtés qui font que ça fait de la lumière. Et que, par exemple, un enfant qui a peur du noir la nuit, eh ben, il peut avoir un petit jardinier dans son hamac illuminé. Et du coup, comme dirait Christophe André, que j'ai entendu il y a 3 jours à Maman les petits bateaux, il n'aura plus peur la nuit, parce que la peur de nuit, c'est surtout le fait de se trouver seul face à ses fantasmes, à ses angoisses. Et que pourquoi le jour, ça, on a moins peur? Parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent nous le partager, ou parce qu'on peut tout d'un coup aller faire pipi, etc.
Et ce jeu de lumière vient lui-même créer des ombres sur une matière particulière? Simplement,
non,
il l'allume.
Voilà, ouais. Voyons ça, oui, c'est difficile à décrire à la radio. C'est, disons, des ombres chinoises. Et ce sera toujours illuminé, ou ouais, il pourra l'allumer ou l'éteindre, mais ça ne va pas changer. Jeu d'ombre et de lumière, c'est le thème. Ces tableaux en caoutchouc sont simplement des tableaux en relief, ombres chinoises, caoutchouc découpé, avec une petite profondeur qui permet de jouer sur les ombres.
29 ans de galerie, pour parler peut-être du travail de ta compagne, ton épouse, pardon, je ne me rappelle plus.
Mon épouse.
Et de toi-même, là-dessus, tu parlais d'art multiple. Quelle est la limite? Quelle est la recherche à chaque fois?
Ah, ben, c'est bien de poser cette question. C'est pour donner l'esprit de la galerie, j'ai été longtemps céramiste. J'ai rencontré ma femme, elle s'est mise à faire des choses sur mes pots qui n'étaient pas du tout traditionnelles, qui ne se faisaient pas. J'ai trouvé ça curieux au départ.
C'est-à-dire,
par exemple, peindre à l'acrylique sur des pots faits en grès par moi, cuits à 1300 degrés. Elle peignait sur l'acrylique des choses par-dessus. Ou alors foutre un petit lézard sur un galet, sur une pièce que j'avais tournée. Et puis, on défonçait la pièce. Et puis, ça devenait un galet de la Drôme avec un lézard, mais très, très finement fait. Roselyne est quelqu'un de très artiste. Bon, elle a fait tout son parcours artistique normal, beaux-arts, etc. Et elle est très douée dans les finitions, dans la couleur, etc. Ou alors faire tout un jeu. Par exemple, à une époque, on faisait des dinettes et c'était par exemple des coupes à fruits. Donc moi, j'émaillais la petite dinette, la petite coupe à fruits, et puis je laissais brute, c'est-à-dire non émaillée, simplement cuite à 1300 degrés, la terre, qui représentait des fruits qu'elle avait façonnés elle-même, un pamplemousse, un ananas, une poire, une grappe de raisin, une banane, etc. Et ensuite, elle pouvait peindre à l'acrylique sur ces petits fruits qu'elle avait modelés et qui étaient cuits à 1300 degrés, mais à l'état brut, sans émail, sans oxyde. Et elle pouvait peindre et elle retrouvait les couleurs de banane. Et c'était assez étonnant de voir une banane avec de voir une planche à saucisson avec la petite farine sur le saucisson, de voir.
Ah ouais.
C'était très impressionnant. Donc voilà, donc on a fait ça longtemps, mais très vite on a eu envie d'exposer ce qu'on faisait. On n'avait que ce lieu au départ, et très vite on a eu envie d'exposer les autres. Donc on s'est mis à exposer des gens. Ça s'appelle coup de cœur, ça veut dire que ce ne sont que nos coups de cœur, on ne triche pas. Ça nous demande une grosse recherche, et plus ça va, plus il faut une grosse recherche. Je donne un exemple, Salon d'Artisas, c'est 150 créateurs à Grenoble en fin novembre, début décembre, et cette année on a trouvé une personne dans ce salon pour une expo, pour cette année et puis éventuellement pour l'année prochaine. C'est un gros travail de recherche, on fait d'autres salons, Nîmes, Toulouse, on a fait le pass à Paris. On trouve des gens qui, nos critères, c'est il faut que ça nous plaise, il faut que ça rentre dans ce qu'on aime exposer, il faut que ça soit pas trop intimiste, prise de tête, parce que c'est l'été et que les gens ont envie de se faire plaisir en été, ils ont envie de légèreté, de couleur, de soleil, etc. Donc même s'il y a un peintre qu'on adore, mais qui sera beaucoup plus hermétique, plus difficile, plus voilà, avec des couleurs plus sombres, on ne le prendra pas. Et puis l'autre critère, c'est de ne pas exposer des gens qui sont trop chers. Moi, j'adore Miro, mais je ne pourrais jamais faire une exposition Miro là, parce que c'est trop cher. Et les gens ne vont pas pouvoir acheter. Et donc, voilà, c'est nos deux critères. Et c'est beaucoup céramique, bijoux, sculpture, lampe, voilà. Et puis tableau, peinture, photo.
Avec quand même du coup une pensée vers quelque chose qui pourra se vendre, parce que là tu parlais de pas cher et puis en même temps aussi d'un art plutôt décoratif.
Voilà, c'est une pensée pour quelque chose qui va pouvoir se vendre, mais simplement c'est le prix qui va déterminer. C'est-à-dire si c'est trop cher, on ne peut pas le vendre, donc on ne l'expose pas, même si ça nous plaît. Mais par contre, on n'est pas commerçant, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'acte commercial, on ne va pas dire ça risque de bien marcher, on va l'exposer.
Ouais.
C'est ça nous plaît, c'est pas trop cher, on va pouvoir l'exposer. C'est une galerie de village, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui fréquentent des galeries qui viennent voir cette galerie, en tout cas pas beaucoup. Et ce qui fait qu'en 29 ans, on a quand même un regard qui s'est affiné chez certains qui sont venus, qui ne savaient pas, qui connaissaient pas bien ce milieu des galeristes, ce milieu d'exposition, mais exposition-vente, artistique, artisanale, et qui petit à petit sont éduqués en gros, on n'a pas fait une œuvre d'éducation, mais petit à petit, à force de venir, et c'est pour ça qu'on fidélise, et c'est pour ça qu'on chaque année c'est différent, pour que les gens se disent, tiens, qu'est-ce qu'il y a cette année, et que ça soit un peu comme un spectacle, quelque chose de nouveau et pas répétitif.
Et puis du point de vue du galeriste, du directeur artistique...
Concierge.
Du concierge, voilà.
Ouais, je suis le concierge, c'est moi qui dois. Mais j'ai mal arrosé les fleurs ce matin et bon. Ou hier, et oui.
De ce travail de recherche, est-ce que à l'inverse, tiens, on va prendre du côté des artistes qui sont amenés à pouvoir exposer chez vous, est-ce qu'ils ont un désir pour ça? Est-ce que la démarche les intéresse aussi? Est-ce que ça les sort de boîte noire ou boîte blanche? Est-ce qu'ils viennent de ville? Comment est-ce qu'ils appréhendent ce type d'exposition? Est-ce que parfois ils refusent?
Alors ça, c'est arrivé, surtout assez au début, que certains refusent ou disent non, ça ne nous intéresse pas, nous n'acceptons pas le dépôt-vente, nous ne faisons que vendre dans des boutiques, etc. On savait que ce n'était pas tout à fait vrai et qu'ils ne daignaient pas se rabaisser à une galerie coup de cœur à l'occasion. Et en s'en allant, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire dommage, c'est dommage si machine et machin qui ont exposé à la galerie le savaient, ils trouveraient ça dommage. Il me rappelait, il disait « Ah, vous avez exposé Anne Bachelier, ah, vous avez exposé Mireille Vauvy, ah, vous avez exposé... » Non, non, alors d'accord, alors dites-nous comment ça s'est passé, etc. Donc on a des références, c'est vrai qu'on a des vraies références, parce qu'on a exposé des gens comme toujours, hein, c'est dans tous les domaines artistiques, il y a toujours les gens qui démarrent, et on a senti ou on a eu envie, et puis ces gens-là, certains sont devenus, ont eu une certaine notoriété, quoi. Certains, il y en a une, j'ai parlé d'Anne Bachelier, elle expose dans deux galeries aux États-Unis uniquement maintenant, plus la galerie Vendécime à Grenoble, une galerie à New York, une galerie à San Francisco, et elle fait des toiles qui valent maintenant très cher. Alors à l'époque, c'était sa dernière année où elle faisait encore du bâti, quoi, pas du bâti, mais elle peignait sur du...
Je vais pas pouvoir aider.
Du lin, comme du bâti. La soie peinte, pardon. Elle faisait de la soie peinte, elle peignait sur soie, et c'était des tableaux qui valaient à l'époque 2000 francs. Et après la galerie, elle est tout de suite partie sur l'huile, c'était ses premières expériences d'huile, et les premières toiles qu'elle a exposées valaient à l'époque 10, 11 000 francs. Puis maintenant, c'est en euros, ça vaut encore 10, 15 000 euros, 20 000 euros. Et elle a, pour ceux qui connaissent, elle est dans la galerie dans laquelle était exposée Léonore Fini, qui est donc une peintre relativement connue, etc. Elle est un peu là-dedans, dans ce genre de mouvance, un peu du fantastique. Léonore Fini peignait des chats, beaucoup de choses comme ça. Et Anne Bachelier peint le carnaval à Venise, elle peint des palais, elle peint des gens, des personnages un peu symboliques parfois, mais un peu dans le fantastique. Donc voilà, ça c'est une référence pour nous, elle est restée fidèle, elle a réexposé une toile il y a 7-8 ans qui valait 13 000 euros en bas, elle savait qu'elle ne la vendrait pas, mais c'était pour nous faire signe. On exposait à ce moment-là 6 peintres femmes et elle avait accepté d'exposer une toile. Tout ça pour dire que, pour en revenir à la question initiale, ça permet aussi d'éduquer les gens à l'art, ou à de les amener à avoir un regard là-dessus, alors que s'il n'y avait pas cette galerie, ils n'auraient peut-être pas cette curiosité-là.
Alain Curté, pour parler de la galerie Coup de cœur à Lucandiwa, souvent à cette antenne, j'ai des organisateurs d'événements, de concerts, de théâtre aussi. Pour parler d'une galerie, quel type de relations naissent après cela avec ces artistes? Est-ce que ça vous permet, vous, de progresser dans votre art personnel aussi? Quels sont les échanges?
Donc c'est plus Roselyne qui peut en parler. Je crois que c'est un artiste, quel qu'il soit, qui est ouvert, qui est curieux des autres et qui est curieux de voir, et qui est curieux des échanges, qui aime les échanges avec d'autres artistes. C'est quelqu'un qui va inévitablement s'enrichir. Il y a des artistes fermés qui pensent qu'on va les accuser de plagiat ou de copiage. Ces gens-là sont fermés sur eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils sont allés au bout de leur art et ils n'ont pas cette espèce de conscience, sûrement modeste, mais même si, ou orgueilleuse, peu importe, mais en tout cas cette conscience que l'art, c'est la rencontre de plein, plein d'univers, de plein de personnes, qu'il y a une histoire de l'art et qu'on est la personne qui crée et un peu le... La concentration de tout ça, de ces échanges, de cette histoire de l'art, des mouvements qui ont eu lieu, de tout ce qu'elle va recevoir aussi. Et tout ça, ça va faire son inspiration, ça va faire son côté unique. Si elle n'est pas justement, si elle, c'est une artiste qui a quelque chose à dire, ça va faire une pièce qui ne sera pas unique et qui sera déjà vue. Si elle n'a pas assez assimilé tout ça et qu'elle n'a pas les moyens d'en faire quelque chose d'unique.
De laisser libre cours à son imagination. Ouais. Et puis évidemment, quand on parle d'art, on est vaste, hein, quel que soit son véhicule. La musique en est un, le théâtre aussi. À quel moment, tiens, rentrons dans la description du personnage, à quel moment, toi, Alain Curté, tu lâches un petit peu la céramique pour devenir un homme de théâtre?
C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le théâtre qui était à l'origine. C'est quelque chose que j'avais depuis tout petit. Et puis, j'ai commencé à faire des choses autour du théâtre, en amateur. J'ai travaillé au théâtre universitaire de Genève. J'ai réussi à travailler avec des bons, Jean-François Balmer, des gens comme ça. Mais bon, voilà, quoi, j'ai pris la succession de Jean-François Balmer sur un spectacle. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était lui, il n'était pas encore au conservatoire à Paris. Il allait au conservatoire au moment où je suis arrivé, moi. En fait, c'est une opportunité qui s'est créée, je ne vais pas raconter l'histoire, mais une opportunité qui fait que je me suis retrouvé à Luc. Je me suis retrouvé avec un tour, une personne qui m'a un peu initié à tout ça, et en parallèle à mon travail de ce théâtre, qui était à l'époque, c'était la mouvance chiffonie, c'était du théâtre un peu marginal, de rue, on faisait plein de choses, etc. Il n'y avait pas encore un travail plus approfondi de comédien. J'ai commencé à essayer de trouver les gestes
Du potier,
aux grandes dames de mes parents qui pensaient que j'étais pas manuel, ça c'était, ils le pensaient pas, c'était vrai. Mais voilà, je m'y suis mis et le contact avec la terre a fait que j'ai vraiment eu envie, cette terre qui se façonne à travers vos mains, mais c'est elle qu'on apprend petit à petit à laisser nous dominer, à l'inverse de ce qu'on fait au début où on essaye de la centrer, de la battre, de tout ça voilà. Donc je suis arrivé jusqu'à ce moment, j'ai suffisamment travailler pour arriver à ce moment où la terre fait ce qu'elle veut et où on arrive aussi à travailler sur les émaux, sur toute la chimie des émaux. Les émaux, c'est rien d'autre que des oxydes qui sont mélangés ensemble et qui vont créer quelque chose qui va faire que le pot est réfractaire et puis aussi quelque chose qui va faire que le pot va être plutôt dans les rouges, dans les marrons, dans les verts, dans les bleus, etc. Donc ça s'appelle l'émail. Ça a été en parallèle et exactement en 96, c'est pour ça que j'ai été très ému, je leur dirai tout à l'heure de faire le film dont on va parler tout à l'heure, parce que 96-2015, c'est 20 ans plus tard que je me suis remis à tourner, mais j'ai comme ça pour un film. Et donc en 96, j'ai arrêté la poterie parce que le théâtre prenait trop d'importance et que surtout, on sait tous, quoi, on sait, les gens qui font de la poterie savent qu'un pot, il faut au moins 15 jours, 3 semaines pour qu'il arrive à maturité, c'est-à-dire entre le tournage, le moment où il sèche un peu, le tournasage, le moment où on va lui donner la forme finale, le bec, la hanse, etc. Puis pour un pichet, puis le biscuit, c'est-à-dire la première cuisson à 900, puis l'émaillage qui va entraîner la deuxième cuisson à 1300, puis les moments où le four doit descendre en température, les moments où on sort du four, tous ces trucs-là, plein de 3 semaines.
Les moments où on le décore aussi.
Voilà. Et que donc, 3 semaines, c'était... J'arrivais pas à avoir 3 semaines de libre parce que ça tournait pas mal, parce que le théâtre a fait que j'ai... En plus, pendant cette période-là, c'était une période un peu intermédiaire où je donnais des cours à la fac de Grenoble d'expression orale et j'ai travaillé dans un service de formation continue à Grenoble. Donc, j'ai arrêté la poterie pour me lancer exclusivement dans le théâtre. Et je n'ai plus concilié de... Je dirais quand même pour l'anecdote que c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de potiers qui sont comédiens. Par exemple, quelqu'un comme... La Belle et la Bête, qui est l'acteur principal? Ben voilà, ce sera la question que je vous pose et que Baptiste vous posera. Et si vous gagnez, vous gagnez une heure gratuite à la piscine de Die. Donc, c'est Jean Marais, voilà. Jean Marais a été
merci
céramiste.
D'avoir répondu avant que les gens appellent en masse.
Mais non, parce que je sais que la radio n'a pas les moyens de vous offrir une heure à la piscine de Die, parce que c'est trop cher. Voilà. Tout ça pour dire que Jean Marais a été céramiste et comédien, acteur de cinéma, et il y en a beaucoup d'autres qui... Et y a, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait que c'est un peu, ça va un peu ensemble.
Et tout d'un coup, effectivement, alors bon, si tu veux, on ne s'étale pas sur ta profession de comédien, qui est donc très vaste, tu travailles régulièrement dans tout un tas de projets différents, mais là, tu nous ramènes un DVD que je n'ai pas ouvert puisqu'il ne m'est pas offert, mais bon, je sais quand même que. Et surtout, un film où là, tout d'un coup, sont rassemblés le travail de céramiste et le travail théâtral.
Voilà. Donc, ce n'est pas un film, c'est un DVD plus un spectacle. C'est-à-dire un DVD plus un film.
Ah, pardon, moi, je mélange les mots. Ouais, ouais. Donc, il y a un premier spectacle, en fait, Les Mailleurs de Meaux.
Voilà. C'est en tout cas super sympa de m'inviter à parler de ça, Baptiste, parce que c'est quelque chose qui est, pour ceux qui me connaissent, un petit peu l'aboutissement, même si je suis loin d'être en fin de carrière, du moins j'espère, mais un peu l'aboutissement de toute de ma vie, un peu céramique, théâtre. Les Mailleurs de Meaux a été créé en 2000 au théâtre de la Courte Échelle. J'étais donc comédien là-bas. C'est un théâtre jeune public et bizarrement, c'est un spectacle qui ne s'adresse qu'aux gens qui ont 15 ans ou plus, parce qu'il y a des textes assez difficiles ou délicats, plein d'images, très, très facile à comprendre et à imager, mais très difficile à saisir dans le mot et à dire. Et donc, voilà, c'est la rencontre d'un céramiste qui était président des céramistes de Rhône-Alpes, d'Argile, ça s'appelle. Donc, les céramistes sont par région en association. C'est eux qui créent des marchés de potiers, comme celui de Die, qui est organisé par d'Argile. Il était président. Et puis, il aimait bien Denis Donger, qui était directeur du théâtre de la Courte Échelle. Et il a dit à Denis Donger, je rêve un jour qu'il y ait un spectacle sur les mots et les pots. Les mots du poète et les pots du potier. Il a dit, parce que moi, je suis arrivé à la céramique par Gaston Bachelard, qui est un philosophe, poète, essayiste assez connu en France et ailleurs, et qui a écrit entre autres La psychanalyse du feu, et qui est un magnifique, La poétique de la rêverie aussi, qui sont des livres magnifiques sur la symbolique, les images, et puis tout ça, et le feu. Et Bachelard est même psychanalyste, je crois. En tout cas, il y a des choses très psychologiques derrière. Et Denis Donger a dit, je veux bien, je veux bien essayer. Et quand Denis Donger, après 6 mois, ayant récolté 5000 phrases de différentes personnes, différents poètes, écrivains, philosophes et autres, a dit « maintenant, il faut trouver quelqu'un pour faire ce spectacle ». Et il a dit « je pense à quelqu'un », et le céramiste a dit « je pense à quelqu'un », et c'était la même personne, c'est-à-dire c'était moi. Donc ça tombait bien.
Quelle chance, non?
Ouais, pour moi c'était une chance, mais c'est vrai que modestement, ça veut simplement dire que j'étais céramiste et le président me connaissait comme céramiste, et puis j'étais comédien et le directeur de théâtre me connaissait comme comédien, donc ils se sont dit c'est la bonne personne. Et ils m'ont demandé de lire un texte de 40 minutes, ou 50 minutes ils faisaient à l'époque, de faire des lectures de ce texte. Et moi, j'aime pas les lectures. J'ai toujours l'impression d'enquiquiner le monde quand je parle ou quand je fais du théâtre. Mais en plus, quand je lis, alors ça me paraît encore plus enquiquinant.
Et un texte écrit par qui?
Alors, c'est donc Denis Donger qui a fait le montage. Donc, okay. C'est des textes de Shakespeare, Pessoa, Whitman, Delteil, René Char, André Chédid, Giono, Hubert Reeves, Francillon, Le Clésio, Francis Ponge, etc. C'est donc... Le génie de ce montage, qui a été un travail énorme de Denis Donger, c'est que lui-même a écrit sur « Maintenant, il me reste, j'ai 13 pages manuscrites quand je travaille ce texte, j'ai 13 pages dactylographiées, j'en ai sapé un certain nombre avec l'accord de Denis Donger, qui a été le metteur en scène du spectacle. » Le génie, c'est qu'on ne voit pas qu'il y a 4 siècles de différence, qu'il y a du Shakespeare, qu'il y a du René Char, qu'il y a du Giono.
Ouais.
Voilà. Et au point qu'un jour, j'ai joué dans le centre de la France, du côté de, je ne sais plus où, Nevers, et c'était un festival des arts du feu. Ils m'ont fait jouer 2-3 jours là-bas. Et à la sortie, il y a une personne qui m'a dit, c'est vous qui avez écrit ce texte. Donc, ça voulait dire qu'elle n'a pas vu qu'il y avait 4 siècles, qu'il y avait des inspirations d'écriture complètement différentes.
On en revient à cette histoire du plagiat là, que tu parlais voilà. au début et tout. Mais en fait, non.
Non, pas du tout.
On ne plagie jamais rien.
Et c'est très riche et c'est de la poésie. C'est une poésie qui est naturel, qui est cosmique, qui parle du feu du poète et du feu du potier, qui parle de la création, et c'est magnifique. Et donc, pour finir l'histoire, j'ai dit je ne veux pas le lire, parce que ça m'enquiquine la lecture, je ne sais pas lire, et j'aimerais le jouer et être un personnage qui traverse ce texte à travers différentes choses. Voilà. Et donc, j'ai demandé une direction d'acteur, et Denis Donger a accepté, donc personne n'a été payé, Valérie Charpinet. Et donc, elle m'a dirigé pendant un certain nombre de jours, c'est-à-dire, comme d'habitude, passer de « je ne comprends rien à ce que tu racontes » à « tiens, j'ai été touché, tiens, ça commence à me parler voilà. ». Et quand elle a commencé à dire ça, on était heureusement presque à la fin du temps qu'on avait pour répéter. Et ça coïncidait avec la première. Donc voilà, ce spectacle-là, je continue à dire encore 3 mots, il a été créé à ce moment-là, mais il était assez lourd, il coûtait relativement cher, 1000 euros, etc. Parce qu'il y avait de la rétroprojection, il y avait des images qui venaient en respiration après des moments, des atmosphères de texte, des images de feu ou des images des premières tablettes sur lesquelles les Sumériens écrivaient, des tablettes d'argile, des images de peau, des images de grandes bassines dans lesquelles on fait du raku, qui est une technique de céramique de feu, etc. Et puis, il y avait 32 effets de lumière, il y avait un régisseur lumière, il y avait quand même pas mal de lumière pour, à des moments isolés, ne voir que mes mains, quand je fais semblant de travailler la terre sur une girelle, qui est une petite tournette sur laquelle le potier décore ses pièces, mais qui pouvait faire imaginer un tour.
Ouais.
Et ce spectacle relativement lourd, j'ai joué une vingtaine de fois. Parfois, les images étaient remplacées par un musicien, c'est-à-dire il y avait un musicien avec des instruments de terre qui m'accompagnait, et donc on a fait une version musique. Mais chaque fois, c'était aussi un peu lourd, parce que ça demandait de payer deux acteurs plus un régisseur. Tout ça pour dire que je l'ai arrêté après 20 fois. Je l'ai joué la dernière fois au théâtre Jean Villard à Romans. Très beau. Quoi, les gens aiment bien. C'est des beaux textes, c'est bien. Voilà. Et puis voilà. Et puis là, j'ai arrêté. Quoi, c'était fini. Parce que la courte échelle ne pouvait plus. C'est un spectacle quand même pas du tout jeune public. Le conseil d'administration trouvait ça bien, mais disait on n'est pas fait pour faire diffuser ce spectacle. Et par hasard, il y a 6 mois, à un moment donné où je n'avais pas trop le moral, je me suis retrouvé dans une petite galerie avec des gens qui font du Acer, des gens qui s'appellent Angart, des gens qui font de la céramique, des lampes, des choses comme ça, qui est une galerie de qualité et qui ont un petit coin cabaret. Et je me suis retrouvé un matin à discuter, j'étais là avec mon épouse qui parlait avec la directrice de cette galerie. Et puis moi j'ai parlé avec la potière qui exposait aussi, et puis je me suis mis à parler des mailleurs de mots. Puis elle m'a dit mais il faut venir le jouer parce qu'on a un cabaret et on joue dans un spectacle. Et je dis c'est impossible, il est beaucoup trop cher et jamais je pourrais venir le jouer ici. Et puis il demande toute une structure. Et puis en rentrant, mon épouse a dit « Mais Alain, vas-y, joue, fais-toi aider par Fantin, qui est un de mes fils qui sort du conservatoire, classe professionnelle, et qui est un très bon directeur d'acteur, un super comédien aussi, c'est vrai. » Et donc j'ai dit « Pourquoi pas ?» Et donc on a travaillé sur les images à créer dans le spectacle. Donc j'ai repris le spectacle exactement comme il était, mais lui m'a fait travailler sur le rythme et sur le fait qu'il n'y ait plus d'images et qu'on fasse des liens rapides d'une scène à l'autre.
Pour qu'il ait une formule très réduite finalement.
Et qu'il ait une formule simple. Voilà.
Voilà. Réduite et simple. On dit petit cabaret là dans cette galerie, mais on peut l'imaginer du coup chez l'habitant maintenant.
Voilà. Et j'ai déjà un contrat chez l'habitant au mois d'octobre. Et donc ça a été un plaisir inouï de me relancer là-dedans, de me dire que ce texte qui est magnifique, je pouvais à nouveau le jouer, l'interpréter. Et puis j'ai surtout été encouragé par des gens comme ma sœur qui habite la Suisse, à qui j'ai appelé assez vite en disant tiens, je vais remonter les mailleurs de mots, mais il n'y aura pas les images. Elle m'a dit quoi ? Il y avait des images ? Et elle a vu ce spectacle, elle m'a dit non, moi je ne me rappelle absolument pas des images, je me rappelle de toi et du texte, et j'ai été touché. Voilà. Donc pour moi, ça a été bien.
Mais alors, question, ce spectacle que tu nous citais, être gros, avoir pris une certaine ampleur, une forme, une visualité, comment ça se passe ? Denis Donger a accepté qu'il soit réduit, ouais. Il faut que tu rachètes les droits,
non.
Comment ça se passe ?
Effectivement, ça se passe très bien parce que Denis Donger adore ce spectacle, et quand je lui ai dit ça et que j'ai tout de suite bien communiqué avec lui, effectivement, il m'a tout de suite dit « Mais Alain, Je suis heureux que tu puisses leur jouer. Lui, il n'a qu'une envie, c'est qu'il se joue. En plus de ça, les droits d'image et compagnie, c'était compliqué même de chaque fois, il fallait une rétroprojection, il fallait tout ça. Et donc pour lui, au contraire, c'est...
En fait, vous vous preniez la tête pour rien, quoi.
Oui et non. Mais je pense que oui, dans un sens, on s'est peut-être pris la tête pour rien, mais c'est surtout, c'est peut-être moi aussi. Hein. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. Et pour moi, être seul sur scène et tout, je sais pas comment font les autres comédiens, mais moi, j'ai toujours la peur d'enquiquiner le monde. Par exemple, ce texte, je l'ai boulé au début, je le disais très vite. Les gens disaient, c'est magnifique, mais on comprend rien, ça va beaucoup trop vite. Et je disais, ouais, mais parce qu'au moins, comme ça, ça dure 35 minutes au lieu 45. Voilà, ça fait 10 minutes de gagner pour vous, tout ça. Mais c'est vrai que je suis comme ça. Donc là, j'ai appris avec Fantin à travailler, à dire le texte beaucoup plus lentement, à rentrer, parce que c'est quasiment une image par phrase. Et il y a 1000 phrases dans ce spectacle, et c'est une image par phrase, attendez, 13, il y a 25 phrases par page, il y a 13 pages, 25 fois 10, 250, non, il y a 300 phrases, 300 images, et c'est étonnant. C'est étonnant. Je donne un autre exemple, une anecdote, je finis le spectacle. Une jeune femme vient, plusieurs jours après, elle m'a dit, j'avais qu'une envie en sortant du spectacle, c'est d'aller me rouler dans la nature, dans l'herbe, d'aller me rouler et de courir partout, etc. Donc il y a quelque chose de cette poésie qui est inscrite, qui est charnelle, qui est incarnée, qui est dans les arbres, qui est dans la nature, qui est dans les peaux, dans, voilà. Et c'est ces images, il y a des images, il y a des phrases de Shakespeare qui sont à pleurer, quoi. Chaque fois que je les dis, je ne sais pas comment je fais pour ne pas craquer. Mais elles sont tellement belles, elles sont tellement simples, elles sont magnifiques. Et c'est superbe d'être au service d'images qui n'ont pas besoin d'images réelles. Et c'est pour ça qu'il a fallu du temps pour accepter cette idée. Mais c'est une bonne idée parce que les images, même certains disaient que ça parasitait. Parce qu'on est tellement dans... Comme je suis en train de parler, par exemple, vous êtes dans mon rythme, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, mais vous êtes là-dedans. Et puis si tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, bon, je dis une musique ou n'importe quoi, il y en aura une. Mais
tout à l'heure, l'avion qui est passé.
Oui, ou l'avion qui passe. Mais quelque chose qui va se rajouter à ce discours, eh ben, on n'est pas dans le même rythme quand on écoute. Moi, je sais, quand je suis un qui adore la radio, comme je l'avais déjà dit la dernière fois à Baptiste, eh ben, parfois, il y a des musiques qui me gênent. J'ai qu'une envie, c'est de continuer à entendre la personne parler. À Maison, par exemple, quand tout d'un coup, il y a une musique, ben, ça m'embête. Ou quand Baptiste parle, ça m'embête d'entendre une musique nouvelle, parce que je suis dans un rythme, je suis dans une assimilation de mots, et puis la musique c'est autre chose, la lumière c'est autre chose, l'éclair, voilà. Et là, on est dans la sobriété qui fait que les gens, ben, ils se farcissent 40 minutes sans que ça s'arrête, et ils sont dans un truc, ils sont avec un personnage qui est en train de vivre avec eux, autour des peaux, des mots, de la poésie, de la nature, du cosmos, et tout ça.
Rappelons au passage d'ailleurs que tous ces poètes ont principalement n'ont qu'écrit, ils n'ont jamais dessiné, pas forcément. La plupart des bouquins subissent ce truc. Quand ils sont adaptés au cinéma, on se dit pareil, oh là là, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça.
Ouais,
et puis pour revenir sur la radio, souvent les gens imaginent avec la voix une personne, un être. Ouais. Quand ils voient la photo, après ils font oh ben non, c'était pas ça.
Étonnant. Claude Villers.
Ouais, par exemple.
Moi qui n'étais que radio et pas télévision, quand j'ai vu la première fois Claude Villers, comme tout le monde, je pense que c'est un grand choc, quoi, d'entendre cette voix très aiguë et tout, et puis ce personnage imposant et machin. C'est marrant.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Bien, alors nous avons présenté les meilleurs deux mots, le spectacle. Et tu as cité Fantin, donc ton fils.
Oui.
Avec son frère.
Valentin.
Ils se sont attaqués à la réalisation d'un film, Les meilleurs deux mots, que vous venez de finir de tourner, que tu as tourné ici dans le Diwa d'ailleurs. Au passage, je le glisse à la Buenas Ondas pour certaines scènes. Quel est le point de départ de ce projet? Et puis, bien sûr, la question qui brûle, quelle est sa différence avec le spectacle?
Eh ben, c'est agréable d'être avec toi à la radio parce que c'est...
Merci, trop d'éloges.
Oh ça permet d'avoir des questions qui fassent que le discours s'arrête, mais la question permet que le discours continue. Mais simplement, il y a une petite interruption et c'est parfait. Parce que vous qui m'écoutez, vous avez parfois envie d'entendre aussi Baptiste. Donc voilà, Baptiste arrive à se glisser comme ça et c'est... J'adore. Le film a démarré tout bêtement. C'est vraiment une affaire familiale, une affaire de gens qui encouragent et qui sont là et qui se rendent compte que ce spectacle, ben, il me tient à cœur, qu'il est bien, puis qu'ils aiment bien. Et pour eux, ça me représente. Voilà, on venait de reparler du projet Les Mailleurs de Meaux avec mes garçons. Et Fantin n'était pas encore venu en répète, mais j'étais sur le truc. Mon fils, qui a fait un BTS montage à Roubaix, arrivait de Paris avec son ami. Il était en train de filmer devant la maison un petit truc la veille de son départ, un mur devant la maison, oui, devant chez nous. Et à 6 heures du soir, je lui dis: Valentin, tu viens avec moi, on va dans la nature, je braille 2-3 textes, tu les prends en image, tu les filmes, et ça fera un petit teaser, une petite annonce, comme ça fera une petite bande-annonce pour le jour où on ressort Les Mailleurs de Meaux. Voilà. Et on part, il filme, 3 jours après il m'envoie le truc, 3 minutes. Mon épouse Roselune, qui est critique, et une bonne critique, c'est-à-dire qui dit ce qu'elle pense, dit: mais c'est super, il faudrait faire un film. Et à partir de là, ben, Fantin et Valentin ont trouvé l'idée géniale, et donc on a eu envie, m'ont proposé, quoi, avec moi, de faire un film qui soit pas une captation du spectacle, mais qui soit un film réalisé, comme tu viens de dire, différent du spectacle. Tout ça, ça a mis un mois entre le redémarrage de Les Mailleurs de Meaux, les 4 jours de répétition avec Fantin, plus le film, 4 jours de tournage, plus tout le montage, plus la plaquette, tout ce qu'il a fallu autour pour communiquer. Tout ça, ça a mis un mois, et donc ils ont travaillé d'arrache-pied, 4 jours de montage, avec une réalisation qu'ils ont faite, qui fait que ils ont voulu garder l'idée du personnage, mais pas du personnage sur scène, du personnage dans un atelier. C'est pour ça que pendant 2 jours, j'ai pu, après qu'on ait repéré le lieu, travailler à Buenos Ondas, qui ont été très accueillants et qui nous ont mis à disposition cet atelier, qui fait qu'on s'est retrouvé dans cet atelier, on l'a agencé comme on a voulu. J'ai retrouvé un tour à pied, je tournais qu'au tour à pied. Il semblerait dans le Diwa qu'il n'y ait que Baudard et moi qui ai fait ça, tourner avec un tour à pied. C'est la vie de ce personnage dans son atelier, en train de parler aux gens de la poésie. On voit qu'il est très proche, il est ému par la poésie, il est ému par la céramique, c'est sa vie. Et puis à des moments, la caméra part complètement ailleurs, et c'est pour ça que c'est très Diwa. Il y a les marnes de Lèche, il y a les cascades derrière Luc, il y a plein de travelling fait dans le Diwa, une descente de Borrière ou à travers la route principale de Lucadie, avec les montagnes, le Glandas, tout ça. Et toutes ces images se suivent avec une voix off qui continue le texte. Donc on entend en permanence le texte, avec des musiques aussi très appropriées, magnifiques. Et puis, soit on me voit en train de dire des choses, de faire des choses, et puis de raconter donc le texte, soit on m'enregistre en voix off et on s'appare sur des images étonnante qui reflète tout la préhistoire, le cosmos, la nature, la lumière, le feu, etc.
Alors c'est étonnant comme approche. Ça veut dire qu'en fait déjà, bon, pour Les Mailleurs de Meaux, il y a une création de spectacle. Tu t'empares d'un personnage, ou plutôt tu proposes la création d'un personnage autour d'un texte qui est multiple, on l'a déjà dit. Et puis là, tout d'un coup, vous créez encore le personnage comme s'il vivait vraiment, et quelle était son activité en dehors des planches, quoi.
Mmh. Ben oui, c'est exactement ça, je ne peux pas dire mieux.
Et alors là, il y avait une part d'improvisation pour toi, ou c'était un nouveau texte qui était écrit?
Non, c'était exactement le texte authentique. Je ne dis pas un mot de plus, je dis plus le texte juste, à la virgule près, et parfois des mots près, parce que Fantin est un directeur d'acteur très exigeant, et qui, pour lui, il faut, le conservatoire l'a formé à ça, mais un texte, c'est un texte.
La rigueur du texte.
Et la rigueur du texte, il y tient. Et puis moi, je suis arrivé au texte tard, je jouais avec Coutureau, avec la Chiffonnier avant, et ce n'était pas spécialement des gros textes, La Courte Échelle non plus, ce n'était pas des gros textes. Je suis arrivé au texte tard, avec Les Mailleurs de Meaux, puis Le Verre Brisé, d'autres pièces comme ça, La Chaise, tout ça. Ces spectacles-là m'ont appris à travailler les textes, et à vraiment à pas improviser, parce que j'avais une tendance à me dire: si je rate tel truc, je me rattrape, etc. Non, bon. La grosse difficulté, c'est qu'ils voulaient que ce soit vraiment, que ce soit un film très habité, incarné et naturel. Donc, ils ont fait des plans séquences. Qu'on appelle les plans séquences, ça veut dire qu'une page dactylographiée, on faisait qu'une prise. Donc, on ne peut pas couper à l'intérieur. La caméra est là, elle filme en permanence. Alors, ça, plus la perche, plus moi. Alors, soit il y avait une mouche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouches à Buenos Ondas, c'est quand même assez hygiénique, c'est bien, mais il y a quand même de temps en temps une mouche. Donc, une mouche qui se pose sur la perche, après 2 minutes de parole, il fallait arrêter et on recommençait. un manque d'articulation sur un mot ou un manque de rythme sur trois phrases. Et hop, on recommençait. Donc, on a été jusqu'à filmer 13 plans séquences pour arriver à qu'ils puissent en choisir un bon. Et donc, 13 plans séquences, quand il y a à peu près en tout 10-15 plans séquences sur le truc, c'était un énorme boulot. Donc, on a travaillé deux jours à fond à
Buena Sonda. Oui, tu veux dire 13 prises par plan séquence parfois.
13 prises, oui, pardon. Ah ouais, 13 prises par plan séquence. Donc, c'était énorme parce que ça demandait une concentration énorme. Ça donnera inévitablement, j'en ai reparlé avec Fantin, parce que j'ai déjà eu des critiques sur le DVD. Certains adorent et d'autres disent c'est super, on retrouve vachement le texte, les images sont magnifiques et tout. Par contre, toi, tu es un petit peu moins naturel qu'au spectacle. Mais donc, j'en ai parlé avec Fantin qui m'a dit mais c'est normal. Comédien, tu crées un truc en live sur scène, là il y a une distance, la caméra te prend un certain moment, tu dis des choses et tu n'es pas comme sur scène dans une espèce de parcours initiatique théâtral. C'est inévitable que les gens, c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure sur les images à partir d'un livre et quand un livre et puis un livre transposé à l'écran, c'est pas pareil.
Quelle sera sa destination à ce DVD finalement?
Ben, il est en vente, il est déjà en vente à la Galerie Coup de Cœur, il est en vente à chaque spectacle. Bon, j'en ai déjà vendu, j'ai joué à Poyol il y a 10 jours, le 11 juillet, là. J'ai vendu 8 DVD ce soir-là. Les gens ont envie, je pense, de prendre le DVD parce qu'ils ont envie de réécouter le texte. Et puis en plus de ça, et c'est pas une redite puisque c'est différent, puisqu'il y a des images, puisqu'on voit plein d'autres choses. Et c'est
presque le même objet que quand on repart avec un CD à la fin d'un concert, quoi.
Exactement.
Voilà.
Oui, voilà, oui, il y a de ça, oui. Oui, il y a de ça.
Il ne sera pas utilisé comme promotion alors.
Alors il y a un teaser qui va se faire là dans la semaine. Les garçons vont me faire un teaser. Mais par contre, ils veulent pas le tirer du DVD. Ils m'ont dit non, on va travailler de nouveau théâtralement parlant. Donc ils vont m'enregistrer des séquences très précises et puis ce sera un teaser tel qu'on me verra
au théâtre plutôt,
comédien sur scène jouant les meilleurs de moi.
Voilà, parce qu'on peut imaginer que l'un et l'autre, finalement, soient deux objets tellement différents qu'on
ne
pourrait pas vendre le spectacle de théâtre avec.
Comment tu fais pour comprendre tout comme ça?
Je sais pas. Je t'écoute, c'est tout.
Oh là là.
D'ailleurs, je ne fais qu'écouter, c'est pour ça que je pose des questions.
Oui, mais tu as une belle capacité d'écoute.
Ah là là, écoute, merci Alain. Est-ce que tu voudrais rajouter, notamment par exemple, les prochaines dates de Les Meilleurs des Mots? Et puis où on peut trouver peut-être un site internet, tout ça, des trucs comme ça.
Ouais, vous avez sur la plaquette que Baptiste a entre les mains, il y a le contact, c'est alain.curté@wanadoo.fr, ça c'est voilà. Il y a un numéro de téléphone, vous prenez le bottin et vous regardez Alain Curté, vous verrez le numéro de téléphone à Luc Andiwa. C'est donc tout simple, il y a pas de site. Et sinon que ça a passé par Facebook, je sais que les garçons, moi je suis pas Facebook, mais les garçons m'ont balancé sur Facebook, il y a des gens qui ont appris. Donc, en gros, le prochain spectacle, le 8 août à Châtillon. Pour la petite histoire, les deux premières ont eu lieu le 11 juillet au Temple de Poyol et le 8 août sera le prochain à Châtillon au Temple. Deux fois le Temple, c'est simplement que au moment où j'ai eu envie de rejouer ce spectacle, j'ai dit que ce sera bien dans des temples parce qu'il sera un hymne à la création. Et on m'a dit à Poyol, c'est fou comme c'était bien, parce que il y avait le temple assez plein, il y avait 40 personnes. Voilà, c'était le lieu approprié, parce qu'il y a des moments, même Delteil, qui est un auteur surréaliste, qui a été chassé par Breton, mais qui a fini sa vie dans le sud, dans des vignes, qui est un brasseur de mots inouï. Il y a toute une page que je balance sur Dieu, mais Dieu vu à travers Delteil, c'est impressionnant. Donc voilà, et puis Luc, dernièrement, voyant que je jouais à Puyol à Châtillon, m'ont dit « Mais pourquoi tu jouerais pas à Luc ?» J'aurais dit « Mais moi, le temple n'a pas une bonne acoustique et puis j'ai pas envie qu'on voit que ce spectacle dans l'été, je suis pas pour la pléthore d'un spectacle. » Voilà. Et ben finalement, ils ont insisté, quoi. Et donc, ça se fera à Luc aussi, dans une petite salle, Place de la Croix, une salle voûtée. Luc en Diwa, le 19 août, mais ce sera, je pense, dans le petit Diwa, tout ça.
Et ben voilà, pour nous, on va retenir 8 août et 19 août. 8 août à Châtillon et 19 août à Luc. Évidemment, vont traîner ça et là des affiches. Hein. On se fera rappeler tout ça. Alain, est-ce que tu veux le mot de la fin?
Oui, j'ai un truc à vous dire. C'est merci en tout cas, Baptiste, de m'avoir invité à cette émission. Et je ne sais pas qui écoute, comment ça se passe, mais des fois j'aime bien capter Radio Diwa et je suis très content d'avoir été invité. Merci.
Ah bah tiens, mais puisque tu habites Luc, je peux comme ça annoncer que nous sommes dans des recherches assez effectives là, concernant une nouvelle fréquence pour le haut du Diwa. Patience encore un petit peu. Merci à toi, bonne journée et à bientôt sur cette antenne.
Merci.
Hej, då börjar vi. L'interview du jour.